Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT, vous le savez. Alfred Orange est avec moi aujourd'hui, salut Alfred.
Salut Rémi, salut à tous.
Journaliste RMC qui est là pour tout nous expliquer, d'ailleurs les dernières infos sur ce préavis de grève, ces préavis de grève déposés par la CGT dans la fonction publique durant la période des JO. Juliette Briens également est là, journaliste à l'incorrect.
Bonjour à tous.
Salut Juliette.
salut Rémi.
Pierre-Édouard Magnon est à ses côtés, président de l'association Chômeurs et Précaires. Salut Pierre-Édouard.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Et Thierry Moreau, journaliste média et pas que, plus que jamais pas que en ce moment, puisqu'on parle de beaucoup de choses. On va donc parler dans un instant à midi de la CGT qui dépose des préavis de grève dans la fonction publique pour la période des JO. Est-ce irresponsable? On vous pose la question. Vous nous appelez au 32-16. À midi 30, en baisse dans les sondages, Gabriel Attal va-t-il faire pchit, comme dirait l'autre? On vous pose également la question. À 13h, délinquance, terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, SOS Fantôme, c'est le cinquième opus. Les Trois Mousquetaires ou encore Le Comte de Monte Cristo, ce sera pour fin juin. Le cinéma est-il en panne d'idées? Et puis à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
On commence avec la grève du jour. On l'a appris en toute fin de matinée, il y a moins d'une heure. Une menace planait depuis un mois et c'est fait donc, Alfred. La CGT dépose des préavis de grève dans la fonction publique pour la période des Jeux Olympiques.
Oui, menace mise à exécution il y a une demi-heure à peine par la CGT fonction publique. Des préavis de grève déposés qui courent du 15 avril au 15 septembre, couvrant donc la période des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Le syndicat demande notamment des recrutements et des compensations salariales pour les Jeux. Cette annonce intervient curieusement quelques heures seulement après l'annonce du ministre de la Transformation et de la Fonction publique de lever le tabou du licenciement économique dans la fonction publique. En clair, pour le ministre, l'emploi à vie des fonctionnaires n'est pas immuable. Stanislas Guérini veut en partie caractériser mieux l'insuffisance professionnelle dont les contours sont très flous et son application est insuffisante pour le ministère. Seulement 13 licenciements à titre d'exemple ont été prononcés en 2022 pour insuffisance professionnelle. Quand on compte 2,5 millions de fonctionnaires, ça fait peu. Et cette annonce de préavis de grève ressemble donc à une déclaration de guerre ce matin des syndicats.
La CGT dépose des préavis de grève pour les JOS irresponsables. Vous nous appelez au 3216. Juliette Briens.
Écoutez, moi, évidemment, je suis entièrement pour le droit de grève, que je rappelle est un droit constitutionnel, mais je suis aussi pour qu'on légifère enfin, et on en parle depuis tant d'années, sur l'abus de ce droit, qui est bien souvent, par certaines branches en particulier, trop utilisé pour prendre en otage, d'une certaine manière, les Français aux périodes les plus délicates, comme les périodes de vacances scolaires, les vacances de Noël, par exemple. Et là, évidemment, pour les JO. Pour ce qui est des JO, je trouve quand même qu'il est normal que les branches impactées par l'afflux massif d'arrivées de touristes soient compensées, d'une certaine manière, pour des éventuelles heures supplémentaires ou difficultés liées aux Jeux Olympiques. C'est aussi ce qu'on demandait, on se rappelle, les fonctionnaires de police. Il me semble que Gérard Darmanin leur a répondu, mais ils ont mis du temps à avoir des réponses. Donc si effectivement cette grève, ce préavis de grève s'inscrit effectivement dans la prévention des Jeux Olympiques et pour les Jeux Olympiques, je pense qu'on peut apporter des réponses, oui, effectivement, à certains fonctionnaires, notamment dans le secteur hospitalier, par exemple. En revanche, si c'est une sorte de grève camouflée pour faire face à ce qui a été dit hier sur l'emploi à vie, là, je pense que
qui dit que les fonctionnaires qu'aujourd'hui veulent lever le tabou sur faciliter les licenciements dans la fonction publique pour ceux qui serait
et on reviendra
sujet
sûrement,
à une certaine incompétence.
On reviendra sûrement sur cette sur ce sujet des emplois à vie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains avantages qui sont liés à la fonction publique qui engagent justement une responsabilité de la part de ces fonctionnaires. Et ce serait bien qu'on leur rappelle de temps en temps.
Thierry Moreau, Juliette vient de prononcer, enfin, employer deux expressions fondamentale quand on parle de grève en France. Elle a parlé grève droit constitutionnel. Elle a aussi utilisé le terme prise en otage. Est-ce que c'est irresponsable, là, ces dépôts de préavis de grève par la CGT ?
Alors, déjà, entre le fait de menacer de déposer un préavis de grève et de déposer un préavis de grève, on est toujours dans la menace. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'il y aura des grèves au moment des JO, et je pense qu'il n'y aura pas de grève au moment des JO.
Pourquoi ?
Parce que je pense que le gouvernement a une peur absolue de la chienlit au moment des JO, et donc ils se débrouilleront, ils négocieront, ils lâcheront du lest, ils se débrouilleront pour qu'il n'y ait pas de perturbation sociale au moment des JO. La deuxième chose, c'est que cette annonce d'il y a une demi-heure intervient dans un agenda politique et social très précis. Aujourd'hui commencent des négociations importantes entre les salariés et le patronat. Donc c'est vrai que c'est aussi un moment assez important, cette fameuse réunion du 10 avril dont on parle déjà depuis des semaines et des semaines. Ça intervient effectivement quelques heures après l'annonce du ministre vouloir revenir sur le tabou de cet emploi à vie. Je rappelle quand même que la fonction publique est un corps social qui serait donc parfait à 99,99%, parce qu'il y a eu l'année dernière 0,0001% de gens virés de la fonction publique.
13 personnes.
Voilà, plus 200 pour si on ajoute les problèmes disciplinaires. Donc ça veut dire à peu près 235 personnes sur 2005.
On va dire, voilà, pour inefficacité, voilà. 13 personnes.
Ce qui veut dire que, dans quel monde un corps social serait parfait à ce niveau-là ? Non, évidemment, on sait que les procédures de licenciement, elles sont très longues, très lourdes. Qu'on les assouplisse un petit peu ne me choque pas plus que ça, quand elles sont évidemment encadrées par la justice. Maintenant, moi, je pense que ce préavis, voilà, on crante, on est dans un agenda politique et social, on dépose un préavis qu'on avait menacé de déposer, mais ça ne veut pas dire qu'on fera grève, et je pense que le gouvernement fera en sorte qu'il n'y ait pas de grève au moment des JO. Il y a déjà suffisamment de soucis entre la sécurité, la pollution dans la Seine, etc., pour que le gouvernement ne s'embarrasse pas de problèmes de grève, et donc ils lâcheront suffisamment de lest, je pense, pour que les préavis soient levés à temps.
Pierre-Édouard Magnan, même question. Est-ce irresponsable de la part de la CGT de déposer des préavis de grève à 106 jours de la cérémonie d'ouverture des JO ?
Bien, évidemment, non. D'abord, il n'est jamais irresponsable pour un syndicat de déposer un préavis de grève, parce que ça fait partie de son boulot. Donc, ils sont responsables de déposer des préavis de grève, ça fait partie de leur boulot.
C'est pas seulement le boulot des syndicats.
Alors là, nous sommes d'accord, et c'est d'ailleurs le problème de la syndicalisation de l'ensemble des salariés et du secteur public, et surtout du secteur privé, est évidemment un sujet majeur. C'est pas le sujet du jour, mais c'est sûr que ça changerait les données, justement, du rapport de force, et ça conduirait sans doute à d'autres débats dans les négociations et à des vraies négociations, si on avait évidemment un taux de syndicalisation qui était supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Après, que des syndicats utilisent l'arrivée des Jeux Olympiques pour instaurer un rapport de force dans un contexte, je ne vais pas redire ce qui a été dit sur les annonces en termes de fonction publique, sur l'échec hier de la tentative d'oukase patronale sur l'emploi des seniors, qui annonce d'ailleurs probablement un refus de la convention d'assurance chômage par le gouvernement. Donc, il y a une telle ambiance, il est assez logique, il est assez normal que les syndicats, la CGT, mais il n'y aurait pas le seul, parce que je crois que Solidaire a déjà déposé aussi, y compris sur le mois de mai, des préavis, qu'ils jouent le rapport de force pour essayer effectivement d'obtenir un certain nombre de droits, un certain nombre d'avantages. Après, vous savez, sur le sujet des fonctionnaires, on peut, comme on disait à une époque, fluidifier certaines choses dans la fonction publique. Évidemment, si on dit, oui, 13 licenciements pour 2 200 000 personnes, ça paraît assez étonnant. Il faudra regarder les immenses boîtes privées pour voir les taux de licenciements pour inefficacité. Hein, parce que même dans le secteur privé, licencier quelqu'un pour insuffisance professionnelle, c'est pas si facile que ça.
Non, c'est vrai.
Je me permets de le rappeler. D'ailleurs, je le regrette pas nécessairement. Je veux dire, c'est pas si simple que ça, l'insuffisance professionnelle à démontrer, y compris devant des tribunaux prud'homaux. Donc, attention là-dessus.
Le tabou, ce que Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, quand il parle du tabou, je vais un peu caricaturer ses propos, mais c'est ce qu'il veut dire, hein, très clairement, du tabou des fonctionnaires indéboulonnables, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas.
Alors, les fonctionnaires indéboulonnables, ça dépend d'ailleurs ce qu'on appelle indéboulonnable. Mmh. Ça dit, oui, effectivement, il y a une sécurité de l'emploi dans la fonction publique. En même temps, le vrai problème, c'est que pendant des années et des années et des années, les fonctionnaires étaient moins bien payés que dans le privé, et ils avaient par contre une sécurité de l'emploi et un encadrement. Et finalement, dans le privé, on avait moins de sécurité de l'emploi, mais on gagnait beaucoup mieux sa vie. Je parle de manière globale. Aujourd'hui, notamment la baisse des salaires dans le secteur privé, mais c'est bien la baisse des salaires dans le secteur privé. C'est dans ce sens-là que ça a marché. Fait qu'aujourd'hui, dans le secteur privé, finalement, ils ne sont pas en moyenne tellement moins bien payés que dans le secteur public, et ils n'ont évidemment, eux, en échange, pas gagné de cette sécurité de l'emploi. Donc on crée effectivement ce lien. Après, j'ai envie de dire, ce n'est pas en retirant des droits aux fonctionnaires qu'on va améliorer les revenus du secteur privé.
Je te donne la parole tout de suite, mais je vais parler de l'intérêt général. Là, pour le coup, c'est l'intérêt, je vais même employer des mots forts, l'intérêt supérieur de la France. On va être la vitrine. Bah, ça te fait sourire, mais on va être la vitrine du monde pendant 15 jours et pendant un mois avec les Jeux paralympiques. Voilà. Mais la vitrine du monde. Je sais plus le nombre de téléspectateurs. C'est quoi? C'était 3 milliards de, pour la cérémonie d'ouverture, au moins.
On est au-delà de 2 milliards.
La dernière fois qu'on a eu les Jeux Olympiques d'été en France, c'était il y a 100 ans. Est-ce que, il n'y a pas un intérêt supérieur, ou on peut l'appeler comme on veut, intérêt supérieur,
partout,
intérêt
tout le monde,
national.
On n'arrête pas de dire, y compris sur ce plateau, que les Olympiques, va y avoir de moins en moins de monde, c'est un truc de riche, c'est le bordel dans Paris, ça marche pas, etc. Donc déjà, faut pas d'un seul coup m'expliquer que parce que la CGT fait grève, d'un seul coup, les Jeux Olympiques redeviennent un truc absolument extraordinaire et tout le monde.
Quand même, tu peux pas,
ça rajoute une couche.
En même temps, c'était vraiment la France. On entend Edith Piaf le jour de la cérémonie d'ouverture. Et qu'il n'y a pas de grève, c'est pas la France. Les Américains vont être déçus.
Parce que c'est, en plus, ça va être exotique pour les Américains.
Il faut dire qu'effectivement, il y a quand même un sacré manque de sens commun dans ce préavis de grève, à ne pas vouloir faire évidemment briller son propre pays. Je trouve, de sens commun à la nation et à ce qu'on veut, à l'image qu'on veut donner de notre pays. Pour ce qui est de l'emploi à vie et de ce tabou, je rappellerai au moins une des raisons pour laquelle on avait créé l'emploi à vie pour les fonctionnaires, c'est pour éviter la corruption, éviter que les postes de fonctionnaires soient monnayables. Et c'était, ça partait d'une bonne intention. Je pense que c'est très bien de venir rappeler la paupérisation, en tout cas la baisse des salaires dans le privé. Est-ce que ça implique par rapport à ce qui est juste et pas juste en termes de d'avantages sociaux des fonctionnaires et des responsabilités, encore une fois, que tout cela implique.
Céline Verzelletti est avec nous. Bonjour Céline Verzelletti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes co-secrétaire confédérale de l'UFSE CGT, c'est l'Union Fédérale des Syndicats de l'État, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Ce préavis de grève déposé par la CGT, ces préavis de grève dans la fonction publique durant la période des JO, c'était vraiment inévitable?
Eh bien, écoutez, nous, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on dit qu'on risque de voir, être dans l'obligation finalement de déposer ces préavis de grève, puisqu'on n'a pas les réponses attendues. Et là, pour le coup, sur l'organisation des Jeux Olympiques, parce que moi, je vous entendais dire tout à l'heure, ça va être une vitrine, ça va, très certainement. Mais à part qu'on ne peut pas vouloir donner une très belle image de notre pays en maltraitant de cette manière tous les travailleurs et travailleuses, parce que les JO, ils ne pourront pas se dérouler correctement. Sans ceux qui vont faire en sorte qu'ils puissent se dérouler. Vous ne pourrez pas avoir des JO sans conducteur de la RATP, vous ne pourrez pas avoir de JO sans aide-soignante, sans infirmière, parce qu'il va y avoir aussi des problèmes de santé, vous ne pouvez pas avoir de JO sans policiers, tous ces agents qui vont faire qu'ils sont possibles ces Jeux Olympiques. Et quand on dit ça, on dit aussi que ces agents-là qui vont, pour le coup d'ailleurs, ne pas pour la plupart prendre leur congé cet été, qui vont devoir certainement faire des heures supplémentaires puisqu'ils n'ont pas voulu recruter pour justement faire face à cet accroissement d'activité.
En échange de primes pour un certain nombre d'entre eux.
Oui, mais justement, là, c'est un sujet d'ailleurs, parce que certains auront cette prime et d'autres pas. Donc, nous, on est aussi pour l'égalité de traitement. Donc, toutes ces questions-là, eh bien, nous, on les a posées, notamment au ministre de la fonction publique, et il ne répond pas, justement, de sorte qu'on puisse avoir les garanties nécessaires. C'est quand même normal, on ne va pas demander aux gens de travailler 24 sur 24, de ne pas prendre leur congé avec leurs enfants, sans qu'il y ait de garantie pour, justement, garder leurs enfants, par exemple, parce que ça, c'est la question qui se pose, pour des logements, pour ceux qui vont venir renforcer, qui viennent de province. S'il n'y a pas ces réponses-là, ça ne va pas et ça ne pourra pas bien se passer. Donc oui, par rapport à ça, on avait dit qu'on déposerait des préavis de grève si on n'avait pas les réponses. Aujourd'hui, on est quand même vraiment à 3 mois, même pas...
106 jours.
Alors que ça fait des années et des années qu'on sait qu'il va y avoir ces Jeux Olympiques. Il aurait fallu se mettre d'accord et ils avaient le temps de pouvoir justement penser des mesures pour qu'il y ait suffisamment d'agents, parce qu'il y a un problème au niveau de la sécurité aussi, il manque d'agents de sécurité quand même. Ils vont demander à certains fonctionnaires de pouvoir, il y a un décret qui va sortir pour permettre à des fonctionnaires s'ils le souhaitent de pouvoir justement remplir ces missions. C'est hallucinant, ça va être n'importe quoi. Il y aura des agents de sécurité qui seront même pas formés.
Les revendications, Céline Verzelletti, ne portent que sur les JO.
Non, pas que sur les JO. Si nous, dans le préavis de grève, on explique d'une part que donc on veut toutes ces garanties pour ceux qui seront mobilisés, mais on parle aussi du contexte général, c'est-à-dire du fait que le gouvernement refuse d'augmenter les salaires des agents de la fonction publique, du fait que et justement on nous coupe les moyens, comme les coupes budgétaires, et qu'on ne nous donne pas les moyens suffisants pour qu'on travaille correctement, et du fait que finalement, ce que ça traduit tout ça, c'est qu'il y a un irrespect des travailleurs et travailleuses de la fonction publique, et cet irrespect, il a des conséquences sur les missions qu'on remplit, que ça soit tout le long de l'année ou que ça soit pendant les JO. On peut pas nous demander.
Je pense que le problème est là, Madame Verzelletti, c'est que effectivement, je pense que la grande majorité des Français est d'accord pour s'accorder sur le fait que tout travail mérite le salaire, et s'il y a heures supplémentaires et contraintes pendant les Jeux Olympiques, les fonctionnaires méritent des primes et des recrutements et des adaptations pour les enfants, etc. Je pense que là-dessus, tout le monde s'accorde. Ce qu'on voit bien arriver, encore une fois, c'est que cette grève va être un énième prétexte pour aller négocier sur tout le reste, notamment sur les salaires, dans une période d'extrême tension avec les Jeux Olympiques, et aussi d'extrême tension pour tous les Français en termes de pression sur le pouvoir d'achat, parce que vous avez sûrement remarqué que la vie, elle est dure pour tout le monde en ce moment,
Céline,
notamment
Verzelletti,
dans le service, dans le secteur privé.
Céline Verzelletti.
Oui. Oui, mais justement, vous l'avez dit, le contexte social, il est très tendu.
Oui, mais pour tout le monde, pour tous les Français, pas que pour les fonctionnaires. Et nous, les grèves incessantes, parce qu'il y a des grèves incessantes dans ce pays, pèsent aussi beaucoup sur les Français moyens et ceux qui travaillent dans le secteur privé, notamment.
Oui, mais ça, en effet, mais il y a quand même un problème. Pourquoi est-ce que, vu que la tension est grande, pourquoi est-ce qu'on a des provocations perpétuelles aussi? Monsieur Guérini, il a besoin là de nous expliquer que finalement, dans la fonction publique, on est tous des fainéants et que quand on ne remplit pas nos obligations professionnelles, eh bien, il n'y a pas de cadre, il n'y aurait pas de sanctions, ce qui est complètement faux. Est-ce que lorsqu'on demande à ce qu'il y ait des concertations, eh bien, ce sont les ministres qui se défilent, qui ne veulent pas discuter avec les organisations syndicales pour qu'on avance? Pourquoi on a mis le préavis de grève à partir du 15 avril? C'est parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est régler les choses avant les Jeux Olympiques. Mais on ne demande pas des choses...
Mais pourquoi aujourd'hui, Madame Verzelletti, vous auriez pu attendre, par exemple, la date symbolique des 100 jours? Là, on est à 106 jours, ça ressemble à rien. Est-ce que c'est quand même pas une réponse à ce que effectivement le ministre Guérini a proposé?
C'est un contexte général, oui, on l'a dit.
Alors, ça a pu précipiter. En effet, les annonces de Guérini n'arrangent pas les choses, ça c'est sûr, comme je le disais, parce que ça montre quoi, ce que fait Monsieur Guérini? Ça montre qu'il ne respectera pas du tout les réunions qu'on aura, qu'il ne respecte pas les réunions de concertation qu'on a, puisque ce qu'il dit dans les médias, il ne l'a pas dit à la réunion du matin même, où après il annonce certaines choses dans les médias. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir confiance à Monsieur Guérini, et que toutes les réunions de concertation et de négociation ne seront pas sincères, en tout cas de sa part. Donc nous, ça nous inquiète forcément. Si on ne peut pas avoir de réunion de concertation sérieuse et de réunion de négociation, il nous reste quoi à nous pour nous exprimer, si ce n'est des initiatives de mobilisation et des grèves? Il ne nous reste rien. Ça veut dire que soit on se dit que finalement, on doit tout subir et qu'on ne revendiquera plus rien, et ce pendant je ne sais combien de temps, soit on arrive justement à des concertations sérieuses. Nous, on ne demande pas la lune, on demande simplement
Céline Verzelletti, le CIO réclamait une trêve sociale. On n'aurait pas pu observer une trêve sociale pendant les JO?
Oui, mais si on veut une trêve sociale, il faut que
ceux
qui nous donnent les coups arrêtent de nous asséner ces coups. Et qui nous donne les coups aujourd'hui? C'est perpétuellement le gouvernement, s'agissant de la fonction publique. Il n'arrête pas. La coupe budgétaire des 10 milliards, est-ce qu'elle tombe là? Elle a des conséquences concrètes sur les conditions de travail des agents. Les propos de Guérini des conséquences sur les agents. Le fait qu'ils refusent l'augmentation de salaire pour 2024, quand même, geler les salaires alors que l'inflation est toujours là, ça veut dire qu'on...
On a bien compris qu'il y a une détermination de la part de la CGT, et ça on l'a bien compris, c'est Verzelletti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, co-secrétaire confédéral de l'UFSE CGT. On va au 32-16, on vous pose la question. Cette grève, ces dépôts de préavis de grève par la CGT pour les JO, est-ce que c'est irresponsable? Pierre nous rejoint au 32-16. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi, bonjour l'équipe.
Merci
bonjour.
De nous rejoindre ce midi sur RMC, RMC Story. Comment vous réagissez Pierre à cette annonce?
Comme d'habitude, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, ce sujet, vous le faites tous les mois, quoi. Quand c'est pas les cheminots, c'est la RATP. Quand c'est pas la RATP, c'est la fonction publique. Il y a toujours des préavis de grève pour les JO, pour les vacances, pour la Coupe du Monde de rugby. En fait, dès qu'ils peuvent chez le monde, ils font chez le monde. Et en fait, moi, que ce soit les fonctionnaires ou la RATP ou même les cheminots, ils se comportent comme des enfants pourris, quoi, des enfants pourris gâtés, quoi. On leur a donné pendant des années et des années, mais à un moment donné, il y a plus d'argent dans le portefeuille, donc les gâteaux, on peut plus les donner. Et il va falloir faire des coupes budgétaires. Mais non, ben en fait, on leur a tellement donné que maintenant, ils acceptent plus qu'on leur enlève des trucs.
Pierre, reste avec nous, Pierre. Je l'ai pas dit, vous nous appelez depuis Toulouse, hein, c'est ça, Pierre?
Ouais,
c'est vous ça. Faites quoi dans la vie?
Commercial.
Moi, je commercial. Travaille. Reste avec nous, Pierre. Je travaille, moi. Pierre, restez avec nous parce que je voudrais vous faire dialoguer avec Claire qui nous rejoint. Elle nous appelle depuis le Val-d'Oise. C'est ça, Claire?
Oui, c'est ça.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Vous faites quoi dans la vie, Claire?
Moi, je suis adjointe d'un collège, donc l'éducation nationale.
D'accord.
On prend pas ma gueule en ce moment, pardon, Pierre, mais c'est le cas.
Alors, dites-nous, Claire, vous entendez ce que le ras-le-bol de Pierre? Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol?
Non, je comprends pas, en fait, parce que moi, j'ai les deux côtés. Mon mari, il est artisan et moi, je suis dans la fonction publique. Ce qui m'énerve, c'est que, en fait, les différents syndicats avaient demandé un entretien depuis décembre et que Monsieur Guérini, il a pas répondu à cet entretien. Donc, déjà, le dialogue social, faut faire dès le départ pour éviter que ça part justement en vrille. Et Monsieur Guérini, il est resté pendant 2 mois pendant qu'il refondait son gouvernement, là. Donc, il fallait qu'il travaille. En fait, je pense que c'est plutôt lui le problème. Donc, c'est facile de remonter les Français les uns contre les autres, statut les uns contre les autres, alors que le problème, c'est que c'est nos gouvernements qui posent problème.
Pierre, que
les gens s'interrogent sur l'organisation des JO, de comment ils vont travailler pendant le JO, c'est bien légitime et c'est bien normal, en fait. Tout employé voudrait savoir comment il va travailler. Donc, ils ont posé des questions, on ne leur donne pas les réponses. C'est quand même pas normal si près des JO.
Pierre.
Mais en fait, les JO, ça date pas d'hier, je crois, l'attribution des JO en France. Donc, pour s'organiser, je crois qu'ils ont eu une bonne dizaine d'années, quoi, pour s'organiser. Maintenant, faut qu'on leur trouve la crèche pour les enfants, faut qu'on leur trouve le logement, faut qu'on leur trouve le transport. Mais démerdez-vous! Comment je fais moi pour trouver une crèche à mes enfants? Vous croyez que j'appelle Stanislas Guérini et je lui dis monsieur Guérini, s'il vous plaît, trouvez-moi une crèche pour mes enfants parce que je vais travailler cet été. Ah non, je me démerde en fait. Et faut être débrouillard un petit peu dans la vie, faut arrêter de tout vouloir qu'on vous donne dans la bouche.
Justement.
Vous travaillez dans l'éducation nationale, vous avez combien de vacances par an?
Ah bon.
Ah non, parce que nous on fait des, en fait notre vous travail êtes, est
attends, attends, Pierre, on laisse répondre Claire. Pierre, on laisse répondre Claire.
Notre travail, il est annualisé. Donc en fait, on fait plus d'heures dans une semaine, on fait plus de 40 heures dans une semaine. Par exemple, les conseils de discipline, quand il y a des problèmes comme il y a eu récemment, ça c'est pas compté en heures. C'est des heures supplémentaires qu'on fait gratuitement. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait peut-être aller voir comment les fonctionnaires, ils travaillent dans leur fonction, les petites mains. Hein. Je parle pas des hauts fonctionnaires qui entourent les ministres au quotidien. Je parle des petites mains, moi. Des catégories C, des catégories B.
Claire, une dernière question. C'est quand même pas dommage. On n'en est pas encore là. Mais si jamais les JO étaient un peu entachés par des grèves, ça serait quand même pas dommage. Claire.
Pardon.
Oui.
Oui, bah je trouve oui que ce serait dommage, mais c'est ce que je vous dis. Ce que je trouve inadmissible, c'est que en fait le ministre de la fonction publique n'ait pas réuni les syndicats et trouvé des solutions et répondu à leurs questions, parce que c'est ça qu'on attend d'un ministre, c'est répondre à des questions qui sont légitimes et prévoir tout ça, parce que en fait c'est pas pour embêter le monde qu'ils font ça, c'est justement pour défendre le personnel. Donc, moi, c'est ça que je trouve ça aberrant, que les politiques ne travaillent pas. Voilà. Pour le coup, c'est eux qui doivent travailler. C'est eux qui doivent trouver des solutions.
Merci beaucoup, Claire, d'avoir été avec nous au 32-16. Claire qui nous appelait depuis le Val-d'Oise, Pierre qui nous appelait depuis Toulouse. Vous avez été très nombreux à réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Quelques messages, Alfred?
Oui, deux messages. D'abord celui de Johan qui dit « À ce niveau, c'est de l'inconscience. Quand est-ce que la CGT comprendra que ses méthodes sont dépassées ?» Et puis Michel qui nous écrit aussi « La CGT a entièrement raison. Ça laisse à l'État le temps de discuter. Si la grève a lieu, c'est que l'État l'aura voulu. »
La CGT dépose des préavis de grève grève pour la période des JO est-ce irresponsable? On vous a posé la question sur nos réseaux sociaux.
Oui, vous répondez oui à 61%, non à 39%.
Allez, de toute façon, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Moins 5 points selon un sondage IFOP fiducial. 42% des Français approuvent l'action menée par Gabriel Attal à Matignon. Le Premier ministre va-t-il faire pchit? On vous pose la question, vous nous appelez au 32-16. C'est dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. On parle désormais du sondage du jour. C'est un sondage IFOP fiducial sur l'action menée par Gabriel Attal et Matignon et Alfred, le Premier ministre, Davis.
Oui, la cote de popularité du Premier ministre perd 5 points en un mois. C'est plus qu'Emmanuel Macron. Désormais, 58% des Français désapprouvent l'action de Gabriel Attal alors qu'ils étaient une majorité à le soutenir en janvier lors de sa prise de fonction. Après 6 mois d'ascension ininterrompue comme ministre de l'Éducation nationale, où sa cote de popularité n'a fait que grimper, son action en tant que Premier ministre ne fait pas l'unanimité. Sans doute plus exposé avec des projets de réforme critiqués comme celui de l'assurance chômage, le Premier ministre suscite donc moins l'adhésion qu'à ses débuts.
En baisse dans les sondages, Gabriel Attal va-t-il faire pchit? Vous nous appelez au 32-16. Pierre-Edouard Magnan.
J'espère bien. Non mais évidemment qu'il va faire pchit. Il mène la politique que ses prédécesseurs ont menée avec lui. Et je pense qu'on pourrait même aller au-delà du quinquennat Macron. C'est une politique qui, un, ne marche pas, deux, dont fondamentalement les Français ne veulent pas. Quand bien même il n'y a pas d'unanimité d'ailleurs des Français sur ce qu'ils voudraient. Ça c'est un autre débat, mais en tout cas il y a souvent une unanimité dans le rejet. Et il y a un moment, si vous voulez, je suis jeune, je suis dynamique, et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça marche un peu, c'est sympa, ça renouvelle. Et fondamentalement, oui, comme avait dit feu Jacques Chirac, effectivement, ça fait pchit. Parce que, il n'y a rien derrière. Je me faisais la réflexion hier à l'Assemblée nationale, et je ne suis pas vraiment suspect de soutenir son interpellante. Il a été interpellé par Marine Le Pen sur problématique de violence dans les établissements. Quand vous écoutez sa réponse, en fait, il n'y a rien. Il n'est que dans, mais comme toujours, mais je trouve que c'était symbolique. Il faut l'imprécation, quelques grands mots. C'est pour ça que je riais tout à l'heure sur l'intérêt supérieur. C'est pas l'intérêt supérieur de la France qui me fait rire. C'est l'usage de l'expression un peu à toutes les sauces aujourd'hui, qui m'amuse. Et donc, effectivement, oui, ça va faire pchit. Mais je veux dire, n'importe qui après fera pchit. En l'état actuel de la situation, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Et comme ils ne changeront pas de politique. Enfin, les ministres ne changent pas. À l'intérieur, ça ne change pas. L'économie et les finances, ça ne change pas. Bruno Le Maire est là depuis 7 ans, donc la politique économique ne change pas. On sait que c'est le premier ressenti. C'est le pouvoir d'achat, c'est le chômage, c'est les salaires. Enfin, on en parle, on vient encore d'en parler tout à l'heure, on en parle régulièrement. Et ça ne bouge pas. Donc, à un moment, un peu de battleur de foire et quelqu'un qui avait plutôt marqué son passage, mais vraiment très rapidement, sur des mesures tout à fait symboliques. Pas forcément inintéressantes, mais symboliques à l'éducation nationale. Parce que sur le fond, il n'a pas changé l'éducation nationale en France. Il faut quand même redescendre sur terre. Bah, évidemment, ça se voit. Donc, je vous dis, être jeune et dynamique, c'est pas un argument.
En baisse dans les sondages, Gabriel Attal va-t-il faire pchit, Thierry Bon?
Je vais décevoir Pierre-Edouard, je pense que ça fera pas pchit. D'abord parce qu'il est un peu payé pour ça. Le Premier ministre, il prend les coups. Et je dirais même qu'il a accentué ce processus de prendre des coups, parce que par exemple, aux questions au gouvernement, c'est lui-même maintenant qui répond tout seul.
Il y a une personnalisation.
Il y a une omniprésence dans les médias, ça c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Il est présent partout. Il joue les paratonnerres. Alors c'est un avantage, c'est que ça protège le président de la République, ça protège certains ministres, mais il y a un risque d'usure. Le Premier ministre, il s'use. On parle de la machine à laver de Matignon. Hein. C'est en termes de communication politique, c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Après, quand on regarde un peu sur le temps long, attention, il reste encore très haut, 42% d'opinion favorable. Je rappelle que Elisabeth Borne est tombée à 23.
Ouais, mais au bout de combien de temps?
Qu'Édouard Philippe est tombé à 31. Et quelquefois, à la suite de chutes extrêmement violentes. Là, on parle de moins 5 points en quelques jours. Oui. Mais ça arrive aussi. Je rappelle quand même aussi que le président de la République reste parmi les présidents les plus populaire parce qu'il est à 29% d'opinion favorable. Je rappelle que François Hollande était tombé à 14%.
Ouais, enfin là, tu prends l'exemple extrême.
Mais il est en train de redevenir le politique le plus populaire de France, qui est absolument délirant.
Très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il faut regarder sur le temps long. Il faut regarder effectivement si les annonces auxquelles qu'il a montré depuis qu'il est à Matignon vont se traduire dans les faits, et les faits vont se traduire par une amélioration d'un certain nombre de situations. Donc là, on est un peu dans l'entre-deux. c'est un peu logique que les gens, qu'il y a une chute de popularité qui reste encore une fois 42% d'opinion favorable pour un Premier ministre. C'est très rare. Hein. Elisabeth Borne, je crois, n'avait jamais atteint ce niveau-là.
Hein. En baisse dans les sondages, Gabriel Attal va-t-il faire pchit? C'est pour ça qu'on aussi, on pose la question, parce qu'il a été.
Oui.
Il y a eu un engouement des médias, notamment quand il est arrivé à Matignon. Et aujourd'hui, on se demande si. Alors, je ne compare évidemment pas le Premier ministre à une baudruche, mais je veux dire, si le ballon n'a pas été gonflé un peu trop vite, trop fort, et qu'au bout d'un moment, ça va exploser, Juliette Briens.
Moi, je suis d'accord avec plusieurs choses qui ont été dites ici. Je pense que déjà, cette baisse, elle est totalement logique. C'est sûr qu'un poste de Premier ministre proposé par Emmanuel Macron, ça se refuse pas. Après, je pense que pour Gabriel Attal, c'est venu à une période plutôt encombrante pour lui. Évidemment, il était le jeune ministre de l'Éducation qui était extrêmement motivé, qui était prêt, et je le pense sincèrement motivé, à faire des vrais changements. Et qui n'a pas eu le temps de profiter et d'installer en fait cette hausse de popularité qu'il avait et qu'on a tout de suite appelé au devoir de la France et du poste du Premier ministre, qui est un poste évidemment où on prend absolument tous les coups. Thierry a raison de dire que 42% ça reste un score très élevé pour un Premier ministre et vous avez raison de dire qu'effectivement les grands mots ne font pas un homme, ne font pas un programme, ne font pas une action, puisque les grands mots, le problème, c'est que le concurrent direct de Gabriel Attal, qui est Jordan Bardella, lui aussi, il les a déjà. Et lui, il n'a pas d'action à mener, puisque de toute façon, il n'est pas au gouvernement. Donc, il y a déjà une concurrence là sur les grands mots. Mais ce qui va déterminer réellement l'avenir de Gabriel Attal en politique, parce qu'on sait qu'il a des ambitions présidentielles, c'est aussi le choix d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron doit choisir son successeur, on le sait, et qu'il fait tout, absolument tout, pour retarder ce moment. Et on le sait, il y a plusieurs prétendants à la couronne et au poste, notamment Gérald Darmanin, notamment Bruno Le Maire.
Je retrouve un article intéressant, c'est un article qui était paru en 2018 sur le site d'Info Slate. Avant Édouard Philippe, à l'époque, on était en 2018, ouais. Six autres chefs du gouvernement ont été durablement mieux notés que le locataire de l'Élysée du moment. Aucun d'entre eux n'est jamais devenu président de la République.
Ouais.
Il fait pas bon d'être trop populaire quand on est premier ministre.
Le seul premier ministre qui a réussi à devenir président, c'est Georges Pompidou, dans des
conditions. Mais dans les deux cas, pas comme sortant.
C'est pour ça que je pense qu'au moment où Emmanuel Macron,
et consort, on ne tient pas président.
Au moment où Emmanuel Macron lui a proposé, enfin lui a demandé, hein, plutôt de devenir premier ministre, je ne pense pas que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Gabriel Attal au moment où il était en hyper montée de popularité à son poste de ministre de l'Éducation nationale.
En baisse dans les sondages. Gabriel Attal va-t-il faire pchit? Vous nous appelez au 32-16 et il y a des messages sur Direct Studio notamment.
Oui, Damien qui réagit, hein, dit il n'a encore rien fait concrètement, zéro action, que des promesses en l'air. Tout cela est donc bien normal qu'il fasse pchit à l'avenir.
Johan est avec nous au 32-16. Bonjour Johan.
Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Excel Midi sur RMC, RMC Story. On est dans les Vosges, c'est ça Johan?
C'est ça.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis comptable.
Très bien, tiens. On compte les points là pour ou contre Gabriel Attal. Est-ce que selon vous, Johan, le Premier ministre va faire pchit?
Mais enfin, je pense pas. Après, il a beaucoup d'idées. Enfin, si on reprend des idées qu'il a eues dans l'éducation nationale, si on reprend la semaine en 4 jours, cette idée, elle vient aussi de lui. Enfin, c'est lui qui l'a impulsé en tout cas.
Dans la fonction publique, ouais.
Voilà. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle en fait que sa popularité elle baisse. Ça veut dire qu'il fait bouger les choses. Parce que les gens qui font bouger rien, qui font rien bouger, leur popularité elle baisse plus. Regardez les anciens présidents.
Ben,
ils sont plus actifs, leur popularité elle remonte forcément puisqu'ils font rien bouger, ils dérangent personne. Donc, pour moi, si
Hollande est très très haut en ce moment.
Voilà. Et ben voilà. Pourquoi? Parce qu'ils dérangent personne.
Ouais.
Et la même chose pour Marine Le Pen en fait. Hein. Vous prenez Marine Le Pen, elle ne parle pas. Donc forcément, sa popularité l'augmente. Dès qu'elle va ouvrir un mot, elle va faire des débats, sa popularité elle va baisser, comme par hasard, puisque elle aura dit son contenu, c'est-à-dire pas grand-chose. Et les gens ils vont se rendre compte que c'est vide, en fait. Et du côté de Gabriel Attal, c'est la même chose pour moi. Sa popularité, elle va baisser parce que il dérange des gens, en fait. Il dérange des gens. Il veut agir, il veut trouver des solutions. Alors évidemment, les gens, ils disent, oui, il a rien fait, etc. Je suis désolé, combien il a fait de conférences de presse pour les agriculteurs? Combien il a annoncé de choses pour les agriculteurs? Ok, c'est un temps long, hein. Les solutions, elles peuvent pas être trouvées du jour au lendemain, sinon ça s'appelle des mesurettes, hein. Si on ne laisse pas le temps agir, on ne va rien régler du tout. Donc, à un moment, forcément, il faut que ça prenne du temps, il faut que ça mûrisse. Il y a plein d'études qui sont faites. Il y a notamment mon député sur la semaine en 4 jours qui fait des conférences, des choses comme ça, pour faire avancer sur le sujet. Forcément, les travaux de fond, c'est un temps long et on ne peut pas faire bouger les choses d'un seul coup.
Mais, merci.
Il cherche à faire les choses, quoi.
Merci, Johan, d'avoir été avec nous. Analyse intéressante de la part de Johan, qui nous appelait depuis les Vosges au 32-16. On vous a posé la question, en baisse dans les sondages, Gabriel Attal va-t-il faire pchit? C'est pas très représentatif, le témoignage de Johan, l'avis de Johan, pas représentatif de notre consultation.
De ce que vous pensez, puisque vous répondez oui à 81% et non à 19%.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Vous vous souvenez, on avait parlé de taxi volant dans le ciel de Paris pour les JO.
Ah bon?
Oui, mais si, on avait parlé de ça. Puis on avait dit, finalement non. Mais finalement, oui. Enfin, Anthony va faire le point avec nous. On en parle dans un instant. Des taxis volants dans le ciel parisien pour cet été. On en parle dans un instant avec Anthony Morel dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Anthony Morel nous a rejoint.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Salut Anthony.
Salut Rémi.
Alors moi j'ai pas bien suivi. Je sais qu'au départ, on nous avait dit il y aura des taxis volants. Et ça existe, des taxis volants dans le ciel parisien pour les JO. Après on nous a dit non, finalement il n'y en aura plus. Et là tu vas nous dire qu'il y en aura.
Il y en aura.
Mais avant tout, ça fait quoi comme bruit un taxi volant?
Ça fait à peu près ça.
Ou alors ça. Ça ressemble plus à ça, non ?
Ouais, là, c'est vraiment très bruyant, quand même. Parce que le but, c'est que ça soit un peu moins bruyant, si tu veux, qu'un appareil volant traditionnel. C'est
aussi ça. De cette émission.
Ouais, les bruitages à la bouche, forcément. C'est Steven Spielberg. Ouais, Jean Lucas, vraiment. Ah, mais clairement, il a essayé de me débaucher. Je vous raconterai ça une autre fois. Donc, effectivement, t'as raison. Il y a eu tout un débat. Je vais vous expliquer un petit peu comment, pourquoi. Mais d'abord, il faut quand même dire que ça va être une première mondiale. C'est-à-dire qu'on va être la première ville au monde à avoir une expérimentation en situation réelle.
Sauf s'il y a grève.
A priori, les pilotes de taxi volant ne feront pas grève. Alors, quand on dit taxi volant, je vous explique rapidement, parce qu'il ne faut pas s'imaginer non plus la voiture du cinquième élément, vous savez, qui s'envolait. C'est le Bruce Willis qui était incroyable. Ben, moi, c'est ça qui me faisait rêver, évidemment. Oui. Quand on parle d'un taxi volant, en fait, c'est un gros drone ou un mini hélicoptère électrique. C'est ça, un taxi volant. C'est-à-dire, en gros, un petit appareil. Tu arrives, alors on pourra même le commander via une application. Le but, c'est ça, c'est que ça fonctionne comme un VTC. Tu arrives, tu t'installes, il y a un pilote à côté de toi, mais à terme, il n'y aura même plus de pilote. Le but, ces appareils, ils ont vocation à voler de manière totalement autonome à terme. Tu t'installes, ils décollent, ils foncent 110 km/h et il atteint sa destination. Le but étant, globalement, d'aller, par exemple, d'un aéroport à un centre-ville. Donc, d'installer aussi en ville ce qu'on appelle des vertiports, c'est-à-dire des petits aéroports qu'on va pouvoir mettre. Par exemple, il y en aura un sur une barge
des
sur la
vertiports.
Seine. Des vertiports, ouais, absolument, c'est le nom. Bah oui, il va falloir repenser l'infrastructure des villes si on veut vraiment que se développe ce genre de moyen de transport. Ça va à 100 km/h. Wow. C'est plus petit qu'un hélicoptère. Ça fait moins de bruit. C'est moins polluant parce que c'est électrique. C'est pas complètement, ça fait quand même un petit peu de bruit, surtout au décollage. Mais quand il est en l'air, globalement, ça va à peu près. Et il y a plusieurs lignes, entre guillemets, qui vont être ouvertes. Donc, pour les Jeux Olympiques, il y en aura un entre l'héliport d'Issy les Moulineaux, donc c'est juste à côté des RMC, et une barge qui sera installée sur la Seine, du côté du pont d'Austerlitz, pour les connaisseurs, et puis une autre entre l'aéroport du Bourget et l'aéroport de Roissy.
Mais ça veut dire que n'importe qui, là, cet été, va pouvoir emprunter un taxi volant?
Alors, pas du tout. Et c'est là tout le débat. Et c'est pour ça qu'il y a eu des allers-retours, etc. Au début, en fait, il devait y avoir le lancement d'un service commercial. On aurait pu, monsieur et madame tout le monde, parce que ça a quand même un prix.
Les prix annoncés,
c'était, absolument sûr. Alors, ça s'appelle Volocopter, la start-up qui fait ça, et l'autre s'appelle les Volocity, les appareils. Ça aurait coûté autour de 110 euros par trajet, donc ce qui est quand même une somme, mais c'est moins cher qu'un trajet en hélicoptère quand même, mais 110 euros quand même. Et alors, il y a les élus de la mairie de Paris, un certain nombre d'entre eux, qui ont dit non, c'est pas possible. Ils ont dit, je les cite, que c'était un gadget totalement inutile et hyper polluant pour quelques ultra privilégiés pressés, donc c'est une charge quand même assez sauvage, on va dire comme ça. C'est un peu ça. Donc finalement, il y aura quand même des démonstrations, mais ce sera pour, alors, en gros, des VIP, des invités triés sur le volet, sûrement certains sportifs des Jeux Olympiques, des politiques, etc. Avant que monsieur et madame Poulon puisse le tester, ça va prendre un petit peu plus de temps. Je trouve que cette charge est particulièrement sévère parce qu'en fait, au-delà du côté, oui, évidemment, ça va pas être pour n'importe qui parce que ça a quand même un coût. Je pense qu'il faut le voir comme une vitrine technologique. Une vitrine technologique parce qu'on pourrait voir ce genre d'appareil se développer avec des appareils à plusieurs places qui coûteraient moins cher aussi.
aussi, tu vois, comme des bus déserts un petit peu. Là, pour le coup, le but des créateurs de ces engins, c'est de dire, en gros, ça coûtera moins cher qu'une place de taxi aujourd'hui. Donc, c'est une course qui sera relativement abordable. On pourrait s'en servir pour du transport de marchandises, donc pour désengorger les centres-villes. On pourrait s'en servir aussi, et il y a des expérimentations qui veulent être menées avec les hôpitaux de Paris, pour du transport sanitaire. Donc, ça peut être soit une personne en urgence, un médecin, ou alors des transports de greffe d'organes, par exemple, dont on a besoin, chaque minute compte, on le sait bien. Donc on voit bien que l'utilité, ça va bien au-delà du fait de transporter quelques millionnaires pour aller au JO, si tu veux.
Bon, après, il faudra tenir compte, évidemment, si ça se développe, du bazar que ça va être dans les airs.
Alors absolument, t'as raison, en fait, il va falloir créer des couloirs aériens spécifiques, donc c'est un casse-tête qui est énorme, surtout en France, parce que la réglementation, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a d'autres pays où ils se prennent un peu moins la tête, t'as des pays où les villes sont en cours de construction, tu vas en Chine, tu vas aux Émirats Arabes Unis, il y a plein de pays où en gros c'est des villes, t'as des villes champignons, où en gros dès les plans d'urbanisme, ils vont penser la ville comme ça, où la ville elle va être pensée en trois dimensions. T'as le sol, t'as le sous-sol avec le métro, mais t'as aussi la voie des airs qui va aussi permettre d'avoir des transports en commun ou des transports individuels. Mais t'as raison, s'il y a plusieurs projets comme ça qui se lancent, parce qu'il y en a d'autres, je peux vous citer Lilium, Joby Vertical, Yihang, qui ont tous des projets de taxi volant
autonome. Yihang c'est pas chinois par hasard?
Yihang c'est chinois, ouais. Absolument, bien deviné. Mais ceux-là ils circulent déjà, figure-toi.
Ah bon?
Ouais, absolument.
Bon, on verra. En tout cas, cet été, les
moi, j'ai hâte de tester. Ouais.
Dans un instant, tiens, Anthony, je vais te piquer ton boulot pour une fois. Dans un instant, on va parler de vidéo, enfin de caméra boostée à l'intelligence artificielle. Ah. On va parler de délinquance, de terrorisme. Est-ce qu'on doit autoriser la reconnaissance faciale? On vous pose la question. C'est dans un instant sur RMC et RMC Story dans Estelle Midi. À demain.
À demain.
Tu peux t'envoler.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.